Après avoir parlé de Jésus, il est tout naturel de vouloir se rendre au paradis céleste et la meilleure manière de s'y rendre, c'est de parler de la Divine Comédie de Dante.
Épisode 11. Visiter le paradis hypnotique de Dante en lisant sa Divine Comédie.
Dans cette trilogie, Dante nous donne à voir sa vision du paradis. Je la trouve extrêmement moderne. Son paradis n'est pas du tout simple, fait uniquement de plaisir, saturé, lisse. S'il en était ainsi, ce serait épouvantablement ennuyeux. On n'aurait pas du tout envie d'y aller. D'abord, ce qui me plaît énormément, c'est qu'il se met lui-même en scène en tant qu'écrivain. C'est son propre esprit qui voyage vers la lumière. Et puis, tout y est musique et cantique, il s'embarque, dit-il, dans son navire qui vogue en chantant. J'imagine entendre de très belles voix, de ténors et de sopranos, comme dans le Messie de Handel. En même temps, les âmes y vivent des expériences complexes et, pour en discuter, je vais téléphoner à un professeur de littérature italienne, Manuele Gragnolati, qui enseigne à l'université de la Sorbonne et qui est directeur associé à ICI Berlin.
Allô, oui ?
Cher Manuele, c'est Amélie Nothomb au téléphone.
Bonjour madame, enchantée de faire votre connaissance.
Et moi donc, vous êtes donc à Berlin ?
Oui, tout à fait.
Et vous avez ce magnifique accent italien. Grâce à vous, nous allons pouvoir explorer ce chef-d'œuvre de la littérature italienne. Pourriez-vous nous présenter Dante et sa trilogie, la Divine Comédie, qu'on appelle aussi tout simplement la Comédie ?
Tout à fait. Dante a écrit beaucoup d'œuvres. Et c'est intéressant, c'est très important. Il a écrit en langue vulgaire florentine et en latin. Et la comédie, comme vous l'avez dit, c'est une trilogie. C'est un poème partagé en trois parties qui décrivent le voyage que le protagoniste, qui est Dante lui-même, fait dans l'au-delà chrétien. C'est un voyage à travers les trois royaumes de l'enfer, à travers le purgatoire jusqu'au paradis. Et c'est pour ça, en fait, c'est une raison pour laquelle le poème est appelé « comédie ». C'est une comédie parce que, en fait, c'est un voyage qui a un happy ending. C'est voyage qui commence mal, dont le protagoniste est perdu dans une forêt, la selva oscura, qui est le symbole, en fait, d'avoir perdu tout point de repère. Et à la fin de ce voyage, il se retrouve à pouvoir se joindre avec la transcendance. Alors, c'est comme un voyage vers le bonheur. En ce sens, c'est une comédie.
D'accord. Et c'est une femme qui va lui servir de guide principal, Béatrice. Qui est donc cette figure féminine ? Que représente-t-elle ?
Oui, elle représente beaucoup de choses. C'est-à-dire que Béatrice, la question de Béatrice, c'est une question tout à fait passionnante. Béatrice est la femme que Dante avait aimée et célébrée de toutes parts de sa production poétique. Quand il était encore à Florence, comme poète lyrique, il écrit « C'est la femme aimée ». Il écrit aussi un petit bouquin qui s'appelle « Vita Nova », qui décrit l'histoire de son amour pour Béatrice, la mort de Béatrice, et en fait, comment on peut rester lié à quelqu'un qui est mort. Et Dante la rencontre au sommet du purgatoire, dans le jardin du paradis terrestre. Et moi, je trouve très beau que Borges, il a écrit 9 essais, aussi très très beaux sur la Divine Comédie, et il pense à ce moment de réunion entre Dante et Béatrice comme le vrai centre du poème. Pour lui, ce n'est pas le voyage à Dieu, mais c'est le voyage à Béatrice.
Si je comprends bien, le paradis, ce n'est pas vraiment un lieu précis, c'est plutôt un mouvement, un geste, une rencontre.
Oui, en fait, c'est les deux. C'est comme un endroit un peu, justement, utopique où on peut tout trouver, ce dont on a besoin ou ce qu'on veut. Même si, dans une logique habituelle ou binaire, cela ne serait pas possible. Et de cette façon, Béatrice, elle est la femme aimée de la jeunesse, mais elle devient aussi la théologie. la connaissance qui permet d'arriver au centre des mystères.
Je trouve absolument génial, non seulement que ce soit une femme, mais que ce soit grâce à l'amour qu'on accède à la connaissance. C'est exceptionnel à l'époque de ne pas diviser amour et connaissance.
Chant 23. Le paradis dans la Divine Comédie de Dante. Et Béatrice dit : Voici l'armée du Christ triomphant, et tout le fruit recueilli du mouvement de ses sphères. Son visage me parut tout en feu, et d'allégresse ses yeux étaient si pleins que je dois passer sans plus de discours. Tel que, dans les pleines lunes sereines, Trivia brille entre les nymphes éternelles qui diaprent toutes les plages du ciel, je vis, au-dessus de milliers de lampes, un soleil qui les allumait toutes, comme le nôtre allume celle que nous voyons au-dessus de nous. Et à travers la vive lumière apparaissait la splendide substance, si brillante que ma vue ne la supportait point. « Ô Béatrice, doux et cher guide !» Elle me dit, « Ce qui te vint est une vertu à laquelle aucune ne résiste. Là est la sagesse et la puissance si longtemps désirées, qui ouvrirent la route entre la terre et le ciel. Comme le feu, pour se dilater, se dégage de la nue qui ne le peut contenir, et contre sa nature descend sur la terre, ainsi mon esprit a grandi au milieu de ses mets, sorti de soi-même. Et ce qu'il devint, il ne sait le rament te voir. Ouvre les yeux et regarde quel je suis. Tu as vu des choses qui t'ont donné la force de soutenir mon éclat. J'étais comme celui en qui sont des traces d'une vision oubliée, et qui s'ingénie en vain pour la rappeler en sa mémoire, lorsque jouit cette invitation, digne de tant de gratitude, que jamais elle ne s'effacera du livre où le passé se consigne. Et lorsque mes deux yeux me révélèrent l'éclat et la grandeur de la vivante étoile, qui là-haut vint comme ici-bas elle vainquit, par-dedans le ciel descendit une flamme en forme de cercle, telle qu'une couronne qui la saignit tournant autour d'elle. La plus douce mélodie qui résonne ici-bas et à soi le plus attire l'âme, paraîtrait une nuée que déchire le tonnerre, comparée au son de cette lyre dont se couronnait le beau saphir, de qui s'azure le ciel le plus brillant.
J'aime l'idée que ce paradis de Dante ne soit pas seulement un lieu, mais surtout un état. Je veux croire, c'est peut-être un fol élan d'optimisme, je veux croire qu'il corresponde à ce qu'on peut connaître dans la mort quand ça se passe très bien. Je veux croire que mourir peut être une expérience géniale. Et que ça dépend en fait de la qualité avec laquelle nous avons vécu. Non qu'il s'agisse de nous récompenser, ce sont simplement de bonnes habitudes à prendre. Ben, quand on a bien vécu avec plaisir, curiosité, positivité, il n'y a aucune raison qu'on meure mal. Il y a même toutes les raisons, je crois, qu'on meurt très bien. Par ailleurs, bon, ces âmes au paradis ont une espèce de corps aérien.
Dante imagine en fait que quand l'âme part de son corps terrestre et va dans l'au-delà, l'âme a la possibilité de se créer parce que l'âme contient la forme du corps, c'est une espèce de DNA. Non, vous voyez, l'âme peut se construire un corps d'air qui lui permet de continuer à avoir une forme et toutes les sensations.
C'est ce qui rapproche un petit peu, je trouve, la Divine Comédie, j'espère que je ne vais pas vous choquer, d'une impression de trip. Quelle est la genèse de ce texte pour lui? Est-ce qu'il a eu une espèce de vision? Est-ce qu'il a eu une espèce de trip pour avoir une vision à ce point juste de l'au-delà?
On ne sait pas, on sait très peu de la vie de Dante et on n'a même pas des documents écrits par lui-même. Alors, on peut seulement comprendre des œuvres mêmes. Mais il y a eu justement beaucoup de théories que soit Dante avait comme fumé de la marijuana ou eu de, vous voyez, des visions. Mais, et ça, j'en sais pas. Mais
oui.
J'aime bien penser que oui, pourquoi pas. Je ne sais même pas s'il y avait de la marijuana.
Je n'en sais rien non plus.
Mais c'est-à-dire qu'on a ressenti le besoin d'expliquer comment l'esprit humain arrive à avoir une créativité telle.
Oui.
Une créativité qui, en plus, mélange une connaissance théologique, philosophique, médicale, politique, légale, incroyable.
Oui.
C'est-à-dire
oui.
que ce que je trouve génial de la comédie, c'est cette possibilité de mélanger la connaissance totale d'une époque avec une créativité, une puissance linguistique, une originalité de sentiment
oui.
qui est tout à fait unique.
Pour moi, les visions de Dante ressemblent à une expérience hypnotique positive, à un voyage psychédélique. Le mot psychédélique vient du grec ancien. Cela signifie rendre visible l'âme et cela peut donner lieu aussi bien à des visions terribles qu'à des visions sublimes. Quand on fait un trip, et qu'on, je parle de quand on a pris des substances psychédéliques et qu'on arrive de l'autre côté, il y a d'abord un long couloir, ça aussi ça évoque la mort, et il y a des portes sur les deux côtés de ce couloir et il ne faut surtout pas les ouvrir parce que si on ouvre une de ces portes, on fait un bad trip. Et le bad trip, c'est fou ce que ça ressemble aux enfers, comme il n'y a plus de temps dans le trip. On reste, on peut séjourner 10 000 ans aux enfers pendant un trip. Mais si on tient jusqu'au bout du couloir, eh bien, on arrive dans une autre perception du monde qui a quelque chose d'assez paradisiaque, en effet. C'est une espèce de regard neuf sur le monde. C'est l'expérience psychédélique qui est très proche de la toute petite enfance. Quelque chose de très heureux, de très paradisiaque. Pour vous, Manuele, le paradis de Dante est une vision paradoxale. De quelle manière est-ce que c'est paradoxal ?
En fait, de plusieurs façons. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien penser au paradoxe comme la possibilité de garder ce qui semble incompatible d'un point de vue logique.
Ah.
Et alors, le paradis de Dante, le paradoxe de le paradis de Dante est la possibilité d'arriver à communiquer quelque chose de plein. C'est-à-dire, c'est comme la version positive de la contradiction. C'est de penser à cette possibilité d'avoir en même temps l'unité et la multiplicité. C'est-à-dire, le paradis de Dante, c'est un voyage vers la perte de soi, d'une part, c'est-à-dire, et ça c'est très beau, c'est-à-dire c'est la possibilité qu'on a d'imaginer qu'on sort de son ego. C'est l'unité, c'est la fusion avec l'autre.
C'est formidable.
C'est la perte de barrières, de frontières, de limites. Mais de l'autre côté, il y a aussi toute la mémoire, le passé, sa propre histoire, le désir de son propre corps comme possibilité de retrouver ses propres chairs qui coexistent avec le désir de se perdre. Alors, il y a ces deux mouvements au même temps. Celui vers sortir de son ego et celui, en fait, de continuer à garder la mémoire et les histoires qui ont construit cet ego.
Contrairement à ce qu'on imagine, le paradis n'est pas chez Dante un lieu où tous les désirs sont comblés, il demeure une nostalgie. Il y a aussi des désirs qui sont encore insatisfaits.
Oui, et ça c'est aussi tout à fait passionnant et une grande nouveauté que Dante crée. Et justement, on avait parlé du corps aérien que les âmes ont et qui lui permet de continuer à avoir des sensations. Et en même temps, ce corps n'est pas suffisant parce que justement, même au paradis, même quand les âmes sont unies à Dieu, même en ce moment-là, avec leur corps réel, ils continuent à désirer le corps de chair, le corps du passé.
C'est trop beau.
Et alors, il y a un passage génial, c'est le début du Purgatoire. Dante rencontre un vieil ami. Et là, il réécrit Virgile. Non, vous voyez les étreintes possibles entre un vivant et un mort dans l'au-delà de Virgile, comme Énée et son père,
oui.
ou Énée et sa femme, ou Orphée et Eurydice. Dante réécrit ce moment, les deux, l'ami et Dante, essaient de se teindre. Ils ne peuvent pas parce qu'en fait, le corps aérien ne le permet pas. Et l'étreint est le symbole de ce qui manque dans ce paradis un corps aérien et pas vraiment charnel.
on sent que dans la vision de Dante du paradis, il y a beaucoup de nostalgie et ça me fait penser à mon expérience de la nostalgie heureuse. J'ai eu l'occasion de retourner au Japon de mon enfance en 2012. Ça a été pour moi quelque chose d'à la fois sublime et déchirant, puisque j'avais toujours aspiré à retrouver ce pays, le pays de mon enfance et le pays de mon paradis perdu. Et en le retrouvant, j'étais à la fois extatique et déjà malheureuse de ne pas le retrouver tout entier, mais déjà malheureuse à l'idée de le requitter. Donc c'était un bonheur déchirant et je me disais, c'est normal que tu connaisses la nostalgie, il n'y a pas de notion plus japonaise que la nostalgie. Et je disais tout cela en français ou en anglais et je voyais l'interprète qui, quand j'employais le mot nostalgie, le traduisait par nostalgic, le katakana, donc l'anglais finalement. Et à un moment, j'interviens pour dire à l'interprète, oh là, mais vous êtes en train de vous moquer de moi. Le mot nostalgie existe en japonais, c'est natsukashi. Pourquoi est-ce que vous employez le mot américain nostalgic alors que vous pourriez très bien dire natsukashi? Elle m'a dit, mais parce que j'observe votre visage quand vous employez le mot nostalgie, vous avez l'air désespéré et vous faites donc allusion à la nostalgie occidentale, ce sentiment malheureux par lequel on se retourne vers son passé disparu. Alors que la notion de natsukashi, donc de nostalgie japonaise, c'est une notion heureuse. C'est ce mouvement de la mémoire qui va vers le passé et qui permet de le reconquérir, qui permet de ne jamais se couper de son passé. Et c'est là que j'ai pensé, mais enfin, dire qu'il a fallu que je retourne au Japon à l'âge de 45 ans pour découvrir la notion de nostalgie heureuse comme une idiote. Je n'avais jamais pensé que la nostalgie pouvait conduire vers le bonheur. Et voilà, Dante est peut-être aussi un auteur un petit peu japonais en cela, puisque la nostalgie à laquelle il tente de nous initier est une nostalgie heureuse. Par ailleurs, toute la Divine Comédie est une quête vers la lumière et c'est même un voyage de transformation.
Oui, c'est intéressant que le voyage, c'est justement comme vous dites, c'est un voyage de transformation. Et le mot que Dante utilise tout au début du paradis pour exprimer cette transformation est un mot qu'il doit inventer. Et le mot que Dante utilise pour cette transformation du paradis est trasumanar. Trasumanar, c'est l'idée que l'arrivée au paradis coïncide avec l'idée d'aller au-delà des limites de soi-même. C'est comme de retrouver dans soi-même une image divine, un potentiel divin. Alors, ce langage poétique, ce qui est vraiment génial dans le paradis, c'est qu'à bout d'un moment, Dante arrive à concevoir une forme de textualité qui n'est plus linéaire, qui n'est plus logique, qui n'est plus téléologique, mais qui devient comme circulaire, qui devient comme...
Les fameux cercles, oui.
Et arrive à exprimer ce que les théologiens appelaient totum simul, c'est-à-dire l'idée qu'au paradis, on n'est plus dans le temps.
C'est ça.
On est dans la plénitude de l'instant où il y a le présent, le passé, les mémoires, les fantasmes, les désirs, tout est ensemble.
C'est extraordinaire, mais c'est vraiment le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps. Son voyage est une métaphore de ce que c'est que vivre sur Terre. Comment vivre pour être heureux ici et pas dans l'au-delà? Pourriez-vous nous expliquer ça?
Justement, Dante n'est pas seulement intéressé à décrire l'au-delà, mais il veut que le lecteur comprenne ce que c'est de vivre sur la Terre. Et alors, c'est un poème que justement décrit le bonheur qu'on trouvera au paradis, avec toutes les contradictions de ça, mais c'est un poème qui continue à dire c'est important d'être engagé dans la vie, mais c'est une façon d'être engagé qui toujours cherche un certain équilibre. C'est-à-dire, il faut vivre les passions, mais il ne faut pas se laisser trop dominer.
C'est vraiment magnifique, c'est l'idée que éclairer la mort permet d'éclairer la vie. C'est une idée sublime.
Waouh!
Ah, il m'a ébloui. Je pense que le paradis est un état que l'on peut expérimenter de son vivant. Toute personne qui a connu l'extase amoureuse, en particulier le début de l'extase amoureuse, ben, sait ce qu'est le paradis, c'est exactement ça. Je pense aussi que certaines fois, quand on entend certaines musiques particulièrement sublimes et qu'on est bien disposé à entendre cette musique, on peut connaître une transe qui correspond au paradis. Voilà, je tenais à conclure avec la Divine Comédie, puisque, à la manière de Dante, j'ai eu le sentiment d'évoluer avec vous du royaume des enfers à des visions subtiles du paradis, grâce à toutes ces œuvres d'art, ces récits et ces rencontres. Nous voici arrivés au terme de ce voyage. Je dois dire qu'il m'a terriblement apporté. Je pensais, dans ma naïveté prétentieuse, que j'avais quelques connaissances en matière de mythologie, mais déjà pour les mythologies gréco-latines, j'avais encore tant à apprendre. Alors ne parlons même pas de la mythologie scandinave qui m'était mais totalement inconnue et j'ai découvert de véritables trésors. Mais je dois dire que c'est particulièrement l'expérience musicale qui m'a nourrie. J'ai découvert des instrumentistes nouveaux, des musiques qui m'étaient inconnues. Et c'est probablement ce qui m'aura le plus marqué. Je pense que ce n'est pas un hasard si Orphée est un musicien. Ce qui nous permet d'accéder à l'autre monde, c'est vraiment la musique, et en particulier certaines musiques. Je veux dire ce monde invisible dont les mythes ne cessent de nous parler, un monde qui nous aide à trouver de la joie. Et d'ailleurs, j'ai gardé pour la toute fin un moment de ma rencontre avec la musicienne Eleanor Billy, qui m'a fait une surprise extraordinaire que je voudrais partager avec vous.
Alors, j'ai entendu dire que vous aviez, entre autres, une œuvre chère à votre cœur.
Merci, l'hymne à la joie sur cet extraordinaire instrument. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça donne bien. C'est un très beau cadeau que vous m'avez fait. Merci, Léonore.
Avec grand plaisir.
Bon, j'aime, ce morceau est sublime, ça tout le monde le sait. Mais ce que j'adore dans ce morceau, c'est que je trouve que Beethoven donne une excellente définition de la joie. Il y a un moment où Beethoven semble hésiter. On sent que la musique hésite à se jeter dans la joie. Et puis, soudain, la musique décide qu'elle va choisir la joie. Et elle s'y lance. Donc voilà, la joie, c'est une décision. La joie, c'est pas naturel. On ne se réveille pas joyeux le matin, sauf vraiment exception rarissime. Mais si on compte dessus, ça ne va jamais se produire. Il faut décider d'être joyeux. Il faut se jeter dedans avec courage. Parce que c'est vrai que la joie, ça fait peur. Mais c'est pour ça qu'il faut décider d'être joyeux.
Vous venez d'écouter la Divine Comédie d'Amélie Nothomb, un voyage mythologique des enfers au paradis. Un documentaire audible original, réalisé par Laureline Amagneux, écrit avec Amélie Nothomb, produit par Rétroviseur Productions. Avec la voix d'Alexis Michalik, à la réalisation Laureline Amagneux, à la production Dorian Blanc et Laureline Amagneux. À la prise de son, Virgile Van Gineken. Montage son, Virgile Van Gineken. Création sonore, Simon Cacheux. Musique originale et direction musicale, Virgile Van Gineken. Interprétation musicale, Emmanuel Bernard et Camille Garin au violon, Hans-Lubin Richard à l'alto et Cédric Conchon au violoncelle. Et à la direction artistique, Christophe Colette. Texte lu. L'Énéide de Virgile, traduction par Auguste Nisard, Firmin Didot, 1868. L'Odyssée d'Homère, traduction par Eugène Barrest, Lavigne, 1842. À Hermès hymne homérique, traduction de Lecomte de Lisle, 1868. Extrait de l'Edda poétique, traduction française de Régis Boyer, édition Fayard, 2014. L'Edda, récit de mythologie nordique de Snorri Sturluson, traduction française du vieil islandais par François-Xavier Dillmann, édition Gallimard, NRF, collection L'Aube des Peuples, 22e réimpression de l'ouvrage. La Genèse dans la Bible, Ancien Testament, traduction de Louis Segond, 1910. Soif, d'Amélie Nothomb, édition Albin Michel, 2019. Le Paradis dans la Divine Comédie de Dante, traduction par Félicité Robert de Lamennais, Flammarion, 1910. Musique. La Descente d'Orphée aux Enfers de Marc-Antoine Charpentier, avec les ensembles Vox Luminis et Anocte Temporis. Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été, épigraphe antique de Debussy, avec Martha Power. Bacchus, composé par Damien Luce, album Ariadne Red Viva, par l'Atlantique Duo Harp, avec Elizabeth Jackson et Martha Power. Les Sirènes de Lily Boulanger, album Boulanger Hymne au Soleil, œuvre chorale, avec le chœur Orpheus Vocal Semble, chef d'orchestre Michael Albert, piano Anthony Barichevski, édité par Carus. La Chevauchée des Valkyries de Richard Wagner, opéra La Valkyrie, joué par Léo Symphonie Orchestra. Extrait de l'album Firsta Morgin, musique for Voluspa, du Quartet Toxo, adapté par Eleanor Billy, édité par Grappa. Mjolnir, Hammer of Thor, album Berserker, de Amon Amarth, édité par Metal Blade Records et Sony Music. Chanson traditionnelle suédoise, par Eleanor Billy. Hallelujah, le Messie de Handel, joué par Léo Symphonie Orchestra. L'hymne à la joie, de Beethoven, par Eleanor Billy. Nous remercions pour leur accueil le Musée Rodin, la Salle Gaveau et l'Espace Camac à Paris. Nous remercions Juliette Ruffier-Bertrand, bibliothécaire, pour sa contribution à la mise en page des partitions, ainsi que Cola Gors et Noé Cousseau pour leur aide précieuse en montage son. Une production Audible Originale.